Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une lecture linéaire d'un poème fort connu, tiré d'un recueil également fort connu. Il s'agit de Zone de Guillaume Apollinaire, issu du recueil Alcool qui paraît en 1913. Alors, pour situer rapidement les choses, en 1913, nous sommes, comme vous le savez, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et l'Europe connaît à cette époque de profonds bouleversements par rapport à sa culture traditionnelle, on va dire. La révolution industrielle, qui est déjà certes un peu ancienne, a provoqué des changements majeurs sociaux, politiques, des changements culturels au sens large. Ces changements, les arts, les différents arts s'en font l'écho. Alors en peinture, par exemple, c'est la période du cubisme qui représente une transition entre un art traditionnel attaché à la représentation du réel et ce que sera l'art moderne, l'art abstrait, c'est-à-dire l'art dégagé du souci de représentation de la réalité. Parallèlement à la peinture, eh bien en littérature, quelqu'un comme Guillaume Apollinaire décide d'embrasser cette modernité autant dans les thèmes qu'il aborde que dans la forme, que dans l'esthétique à laquelle il a recours pour en parler. C'est ce que nous allons voir donc ici dans ce poème. Nous allons illustrer un petit peu cette idée où nous allons procéder à une lecture linéaire des 29 premiers vers de ce poème « Zone ». Poème donc liminaire du recueil « Alcool ». Alors je vais d'abord vous en donner une lecture et ensuite on va procéder à l'explication. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique, ô christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X, et toi, que les fenêtres observent. La honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux, il y a les livraisons à 25 centimes, pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et 1000 titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour, y passent. Le matin, par 3 fois, la sirène y gémit. Une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes. Voilà la jeune rue, tu n'es encore qu'un petit enfant, ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. Tu es très pieux, et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalyse, vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Il est 9 h, le gaz est baissé tout bleu, vous sortez du dortoir en cachette, et ici s'arrête l'extrait que nous avons décidé d'expliquer. Alors on peut repérer dans ce poème, mais c'est un petit peu difficile à la vérité, plusieurs mouvements. C'est assez difficile de par la nature de ce poème qui est de procéder par collage, par superposition un petit peu aléatoire d'images différentes. Alors on peut isoler tout d'abord les 3 premiers vers en disant que c'est une affirmation de la modernité. À la suite de quoi, entre le vers 4 et le vers 10, on assiste à une espèce de fusion du religieux et du technologique, de l'ancien et du moderne. Entre les vers 11 et les vers 14, il est question de littérature. Entre les vers 15 et les vers 24, eh bien, c'est l'univers urbain du quotidien de Guillaume Apollinaire dont il est question. Et puis après, pour la suite, entre les vers 25 et les vers 29, eh bien, il s'agit d'un souvenir d'enfance. Alors, commençons un petit peu cette explication. D'entrée de jeu, dans le premier vers, le passé est rejeté, mais d'une façon paradoxale, puisque le premier vers est un alexandrin. À la fin, tu es là de ce monde ancien, un alexandrin, sous réserve que l'on fasse la diérèse sur ancien. Donc il y a un rejet affirmé, alors que la forme qui est reprise, c'est une forme traditionnelle, l'alexandrin. Il n'y a cependant pas de ponctuation, Et cet alexandrin, eh bien, qui commence le poème, est le seul vers qui va être, est le seul alexandrin que l'on va, ou un des seuls alexandrins que l'on rencontrera, les autres vers étant des vers libres, donc de longueur aléatoire. Ce premier vers est donc en quelque sorte, comme il est détaché typographiquement, une annonce, hein, de ce qui va faire le contenu du poème. Il est en quelque sorte programmatique. Dans le deuxième vers, il y a cette fusion qui est déjà à l'œuvre entre une forme ancienne, une forme de poésie ancienne que l'on appelle l'idylle, que sont toutes ces histoires de bergers et de bergères, de séduction dans un cadre bucolique. Et ici, cette forme ancienne est, comment dire, transformée, fusionnée aux éléments de la modernité, donc la tour Eiffel et le troupeau des ponts qui bêlent. Donc cette fusion donne lieu à cette fusion de deux réalités distantes dans le temps donne lieu à une réalité nouvelle, et cette fois-ci à une espèce de transfiguration, on pourrait dire, du réel. Et cette fois-ci, eh bien, c'est exprimé dans un vers qui est un vers libre. Tu en as assez, au vers 3, de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Le rejet de ce monde ancien, qui était déjà effectué au premier vers, est recommencé ici, avec la reprise de ce même pronom personnel, tu, et avec l'idée d'en avoir assez, hein, qui est une expression familière et qui fait écho à l'expression plus soutenue qui était celle du premier vers à la fin, tu es las de ce monde ancien. On ne sait pas exactement à qui s'adresse le poète. Est-ce à lui-même que qui est destiné ce tu? Est-ce à quelqu'un d'autre? On peut imaginer que cette ambiguïté, eh bien, n'est pas tranchée et que ça peut être plusieurs choses ou plusieurs destinataires à la fois. On rentre ensuite dans les paradoxes, puisque ce rejet du monde ancien, finalement, n'est pas tant un rejet que son intégration et sa pleine incorporation dans la modernité, avec par exemple la religion. Hein. Alors les automobiles, pourtant symboles de modernité, ont l'air d'être anciennes, paradoxalement, nous dit-on au vers 4, et la religion seule, hein, donc à l'exclusion de toute autre manifestation culturelle, est restée toute neuve. La religion, il y a insistance, hein, par reprise anaphorique en début et en fin de vers de ce même terme, et ce sont des adjectifs mélioratifs qui semblent être appliqués à cette religion. Elle est simple et elle est restée toute neuve, comme les hangars de port aviation. Il y a donc fusion de cette modernité avec les éléments traditionnels. L'invocation, hein, directe et traditionnelle, ici aussi paradoxalement, du christianisme au vers 7, au christianisme, avec ce O qu'on ne rencontre qu'en poésie, ce O vocatif, et l'affirmation, hein, donc de la modernité de ce pape, et même avec le superlatif, l'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Hein, il y a cette interlocution directe du pape pour valoriser, eh bien, sa modernité, paradoxalement. On reprend ensuite au vers 9 l'interlocution précédente avec le tu, et toi que la honte. Et toi que les fenêtres observent, pardon, la honte te retient. Il s'agit donc peut-être du poète lui-même, peut-être du poète lorsqu'il était enfant, ou peut-être d'un autre destinataire, peut-être du lecteur. L'ambiguïté ici ne peut pas être tranchée. Mais en tout cas, quel que soit le destinataire, on peut imaginer qu'il est vu en transparence, en quelque sorte, puisque les fenêtres sont personnifiés, hein, les fenêtres observent, et on peut imaginer que ce sont peut-être les fenêtres d'une église, ou que c'est le regard de Dieu peut-être qui observe ce personnage, d'autant plus que la honte, hein, le sentiment dont il est question, est un sentiment profond, est un sentiment fort, et est un sentiment qui a pour propriété de pouvoir être caché au regard des autres, mais non pas au regard de Dieu, hein, qui voit dans la vérité des êtres à l'intérieur d'eux. Il y a cet encouragement du poète donc à dépasser la honte et à s'humilier, à entrer dans une église et à s'y confesser. Et puis ensuite, on passe à quelque chose qui en apparence n'a pas de continuité, c'est la littérature. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut, avec cette accumulation, cette énumération qui arrive ici sans ponctuation. Et l'esthétique donc de la discontinuité est à l'œuvre, du coq à l'âne, puisque toutes ces choses énumérées sont qualifiées de poésie, et la prose, hein, donc les journaux, tout ce qui se rencontre en fait en termes d'écrit dans le quotidien d'une grande ville. Il y a même les prix hein, qui sont donnés, un petit détail tout à fait anecdotique, mais un petit détail qui signe cette société capitaliste, on va dire, cette société moderne, hein, les livraisons à 25 centimes. Et puis le genre, au vers 14, le genre biographique aussi, hein, les portraits. Donc il y a tout un, comment dire, toute l'ancienne littérature eh bien, se retrouve transmuée en fait, dans tout ce qui concerne, dans la production écrite, dans le foisonnement de l'écrit à cette époque, à l'époque de la modernité. On passe ensuite au vers 15, toujours hein, cette idée de discontinuité, de juxtaposition, d'images, de choses éloignées les unes des autres. On passe à un souvenir récent. J'ai vu ce matin ce qui sous-entendrait qu'il est en train d'écrire ou d'évoquer ce souvenir le soir. Une rue, une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Hein. En plus, il y a ce côté tout à fait familier, tout à fait conversationnel d'avoir oublié le nom et de ne pas même chercher pour l'écriture de ce poème à le retrouver. Cette rue est valorisée, cette rue est pleine de vie. Hein. Le poète y insuffle tout un tas de choses avec ses synesthésies, par exemple, le mélange des sensations visuelles, le soleil et sonore, le clairon, avec l'accumulation des passants, les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, toujours sans ponctuation, cette accumulation dans le vers qui mime l'accumulation des personnes, la presse hein, de cette foule dans cette rue, et le mélange de toutes ces classes sociales, le mélange des professions. Il y a ce rythme aussi qui est le rythme de la vie moderne, du lundi matin au samedi soir, quatre fois par jour y passe, hein, donc ce temps qui est le temps rythmé de la société industrielle capitaliste, de temps du travail et du repos, et du travail et du repos, de l'alternance. Et cette rue est personnifiée, hein, donc elle est une cloche rageuse, alors pardon, au vers 19, le matin par trois fois la sirène y gémit, et elle est animalisée au vers suivant avec la cloche qui aboie. Donc ce sont des éléments hein, qui sont associés, des éléments visuels et des éléments auditifs qui sont associés à la façon, hein, il y a cette comparaison, des perroquets, ils criaillent, et puis ça se termine par un jugement personnel, à la première personne, au « je », de la première personne, du poète. « J'aime la grâce de cette rue industrielle », nous dit-il. Hein, donc, une affirmation personnelle avec ce mot de grâce qui a un écho aussi religieux. On passe ensuite, toujours cette esthétique de la discontinuité, au vers 25, à un espèce de souvenir d'enfant, même s'il est raconté au présent de vérité générale, avec un souvenir visuel, ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc, hein, il y a ce côté visuel qui est prégnant, et toujours ce thème-là qui avait été laissé un petit peu entre parenthèses et qui est repris maintenant de la modernité de cette religion, le télescopage du jeune âge et de la ferveur religieuse avec ce camarade hein, qui est nommé René Dalyse. On s'arrête donc ici hein, pour l'explication de ce poème où cette même esthétique va procéder ainsi hein, en manière de collage jusqu'à la fin du poème et je vous invite d'ailleurs à la découvrir par vous-même cette fin de poème. Pour conclure, on peut donc dire que Guillaume Apollinaire fait ici la célébration de la modernité, célébration qui passe à la fois par le fond hein, et par la forme. On peut dire ici que Guillaume Apollinaire rejoint le souci qu'avait exprimé un de ses prédécesseurs, Arthur Rimbaud, dans ses fameuses Lettres du voyant. Arthur Rimbaud hein, parlait d'inventer des formes neuves, des inventions d'inconnus qui réclameraient des formes neuves, ou qui rêvaient d'inventer une nouvelle langue pour parler de ces nouvelles choses dont on n'a pas encore parlé et que l'on finirait par découvrir, mais c'était à l'époque de Rimbaud un souhait qu'il formulait par rapport à l'avenir, un souhait que, semble-t-il, Guillaume Apollinaire est en train, en 1913, de réaliser en déstructurant un petit peu les règles de la poésie traditionnelle, en défaisant le vers et en ouvrant la voie, à ce moment-là, à tout ce qui fera tout ce que sera l'art moderne et qui, plus tard, hein, poussera encore la déstructuration encore plus loin, que ce soit en poésie, que ce soit en littérature, ou que ce soit dans les autres arts, en particulier peut-être la peinture que l'on évoquait tout à l'heure. On est ici en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, à un moment pivot dans l'histoire et à un moment de pivot dans l'histoire des arts également.